pour cette présentation vraiment très très intéressante et en plus qui respecte tellement bien le temps que ça nous laisse plus de, un petit peu plus de temps pour la discussion. Moi, je ne sais pas comment. Vous, enfin, on n'a pas trop discuté. Est-ce qu'on lance d'abord la discussion, moi? Alors, moi, ce qui, enfin, je ne connaissais pas du tout ces travaux de Fourier. Et je suis très intéressée. Et en venant, juste en regardant les titres des interventions, je me demandais justement. Je pensais poser une question sur l'utopie. Mais en fait, ma question, elle tombe à plat, puisque vous nous dites d'emblée que Fourier n'est pas un utopiste, c'est un inventeur social. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant pour notre discussion d'aujourd'hui, parce que, justement, il me semblait qu'il... Enfin, voilà, la question que je me posais, que j'avais envie de poser, de vous poser, et de poser peut-être aussi à la salle, c'est est-ce que les expérimentations, ce qu'on appelle... Enfin, toutes les expériences de transition qui existent aujourd'hui, ce sont des nouvelles formes d'utopie. Dans quelle mesure il y a des choses, des traits que vous, à partir de la connaissance que vous avez de cette pensée de Fourier, vous retrouvez dans les initiatives d'aujourd'hui? Mais en même temps, cette question, elle n'est pas tout à fait juste, puisqu'on n'est pas vraiment dans l'utopie. Alors, donc, il y a une double question, du coup. Si ça n'est pas de l'utopie, qu'est-ce que c'est? Et est-ce qu'il y a des traits qu'on retrouve dans ce qu'on peut observer aujourd'hui? Voilà.
Alors, voilà. Oui. Il y a des traits qu'on peut retrouver dans ce qu'on observe aujourd'hui, et notamment, on les a retrouvés, on peut les retrouver à travers le projet initial, par exemple, des jardins de Cocagne, puisque, selon les dires du fondateur, Jean-Guy Henkel lui-même, il est inspiré de la démarche des fourriéristes. Alors, il faut savoir que les fourriéristes ont fait école. Et ils ont fait école dans un endroit qui devait être un endroit d'expression radicale du naturalisme, puisque, en fait, ils ont fait école à l'école polytechnique, où ils ont eu de très très nombreux disciples, notamment un des plus célèbres étant Victor Considérant. Et ce qui est très intéressant, c'est que les prises de position qu'ont eues ces disciples, qui sont souvent des gens, alors, ils ont d'abord été saint-simoniens, puis sont devenus après fourriéristes, mais qui sont des gens qui sont tous lancés dans des expérimentations. On ne compte plus le nombre d'expérimentations fourriéristes en France, aux États-Unis, etc. Certaines ont perduré, vous connaissez tous Gaudin et le familistère, mais d'autres ont raté, puis d'autres, de façon très indirecte, par un système de résurgence sur lequel on réfléchit, notamment avec Dominique et avec Sylvie aussi dans notre labo, on voit bien qu'il y a des résurgences, c'est-à-dire que ça réapparaît, c'est pas linéaire, ça réapparaît à des endroits un petit peu inattendus, ça va réapparaître dans le monde bancaire, ça va réapparaître dans la création des jardins de Cocagne, ça réapparaît dans l'affaire Lippe. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours quelque chose qui est fondé sur un même modèle relationnel, un même type, je dirais, d'interaction. C'est une sorte de pattern culturel qui se transmet comme ça, et que ça concerne le rapport à l'argent, le rapport au végétal, c'est toujours la tendance à prendre l'objet comme un partenaire. Ce qui est très, très étonnant, on retrouve même ça chez un des grands adversaires de Fourier, qui est Proudhon, et qui est aussi un bisontin, dans le projet de la Banque du Peuple, l'argent n'est pas quelque chose de sale, etc., c'est un partenaire. Et dans le mutualisme de Proudhon, c'est très intéressant. Voilà. Et on va trouver ça, par exemple, dans la transition. On en a beaucoup parlé il y a un an. On n'a pas encore publié là-dessus et c'est dommage. On se le disait avec Dominique, dans la manière dont le modèle fourriériste s'inspire des fruitières. Les fruitières inspire les fourriéristes, qui inspire certains socialistes, qui inspire des banquiers, qui permettent de faciliter la manière dont les viticulteurs du Jura, à un moment donné, reprennent le modèle des fruitières. Donc, vous voyez, c'est des chaînes qui sont très longues. Et on voit à travers ces chaînes se transmettre une sorte de pattern culturel, une attitude qui fait que certains objets deviennent en quelque sorte des partenaires. Et cet objet peut être un objet incroyable comme l'argent. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond bien, hein, mais voilà. Mais ce ne sont pas des utopies.
Effectivement, c'est très intéressant, mais juste un éclaircissement. Si l'argent est un adversaire, non, c'est le commerce qui est l'adversaire chez Fourier. Ouais. C'est pas l'argent en soi.
Non. D'accord. Pas du tout.
L'argent peut devenir un partenaire.
Donc, le commerce est un mensonge. D'accord. Pour Fourier, le commerce est menteur. Et alors Fourier est immoraliste. Hein, il prône bien avant qu'on en parle une libération sexuelle, voilà, assez radicale. On a retrouvé ses manuscrits. Ils ont été publiés sous un titre qui s'appelle Le Nouveau Monde Amoureux, qui doit accompagner le Nouveau Monde Industriel. Mais en fin de compte, c'est un monde moral. Et la morale consiste à multiplier les liens, c'est-à-dire à avoir des rapports sociétaires. Voilà, l'individu lui-même n'est pas grand-chose, il est le résultat de tous les rapports qu'il peut avoir. Et le commerce, justement, est quelque chose qui nous barre, qui nous coupe, qui nous... Voilà. Il empêche, par exemple, c'est lui qui fait que les melons sont trompeurs. Les melons sont trompeurs à cause du commerce. Les melons ne sont pas trompeurs en soi. Si on les distribue bien, si on les regarde attentivement, si on les cultive bien, ben ils ne sont pas trompeurs. Il y a une question ?
Ça fonctionne le mieux ? Oui. En t'écoutant, je me demandais quel pouvait être éventuellement le rapport entre Fourier et puis Rousseau, et plus précisément enfin le romantisme qu'on trouve chez Rousseau, tu vois, autour d'une civilisation qui déprave, d'une harmonie initiale avec la nature qui aurait été rompue. Alors chez Foucault, là, on a un contrat social qui va permettre du coup de rétablir tout ça, mais du coup chez Fourier, du coup, est-ce qu'on a aussi la même idée de retrouver peut-être des choses plus naturelles, ou en tout cas un lien premier avec la nature ?
Oui. Alors, je pense que d'une certaine manière... Alors, il n'y a pas de contrat social chez Fourier. Il n'y a pas du tout cette image du contrat, et il n'y a pas cette idée d'un rapport à la nature qui serait dégradé. Il n'y a pas l'équivalent de cette première phrase très célèbre de l'Émile. Hein. Tout est bien sortant des mains de l'auteur de la nature, tout dégénère entre les mains de l'homme. C'est pas entre les mains de l'homme que ça dégénère. Ça dégénère à un moment donné dans la civilisation. Mais la civilisation doit être un passage. Elle est nécessaire, elle est indispensable. Et il y a une vision de l'histoire chez Fourier qu'il n'y a pas chez Rousseau. Voilà. Pour dire vite, hein, pour répondre, mais il n'y a pas cette tension entre nature et culture. La culture n'est pas quelque chose qui vient forcément pourrir la nature. Elle peut intégrer. Voilà. Il n'est pas naturaliste. Rousseau est naturaliste. Et le romantisme se construit sur le naturalisme. Le romantisme est une forme du naturalisme, dirait sans doute Descola, qui n'est pas là, mais c'est dommage. On aurait pu lui poser la question.